Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le président du CNFPT, cher François, madame la directrice de l'INET, Véronique Robitaille, madame le contrôleur général, qui est encore avec nous, chère Adeline Nazan, heureux de te retrouver ici dans de nouvelles responsabilités. Vous saluez toutes et toutes ici présents les élèves administrateurs territoriaux de la promotion Vaclav Havel, mais aussi, si j'ai bien compris, quelques élèves espions de la promotion suivante, Anna Arendt, c'est bien ça? Voilà, ils viennent voir comment ça se passe pour la fois suivante. Radicalité, en tout cas radicalisation, laïcité, politique de la ville, jeunesse. Il est vrai que plusieurs sujets m'intéressent directement dans mon pôle ministériel. Ville, jeunesse, sport, vie associative, éducation populaire. Et j'ai apprécié les différentes synthèses qui ont été présentées il y a quelques instants. Une synthèse, c'est automatiquement, et vous le savez mieux que quiconque, un sport frustrant sur le plan intellectuel. Mais vous avez été quand même assez impertinent dans certaines de vos remarques. Et j'y vois là le signe d'une imagination. Gardez-la tout au long de votre vie professionnelle. Ne vous laissez pas trop brider par les élus qui voudraient vous empêcher d'être intelligent et productif. Et comme moi, je peux vous le dire, étant moi-même administrateur territorial, voilà, il y en a au moins un dans le gouvernement. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc, c'est l'occasion de pouvoir l'assumer totalement. Comprendre, vouloir agir. Ça a toujours été mon triptyque dans ma vie professionnelle et ma vie politique. On ne peut pas agir sans une volonté politique forte et on ne peut pas développer cette volonté sans comprendre. Et manifestement, aujourd'hui, vous avez essayé de comprendre. Je crois profondément en la force de l'action publique, en la force de l'action politique. Sinon, d'ailleurs, je ne serais pas là où je suis et je n'y aurais pas consacré toute ma vie, qu'elle soit professionnelle ou tout mon engagement politique depuis plus de 40 ans maintenant. Mais je suis également convaincu de la force de l'action associative, celle que vous allez rencontrer dans vos futures responsabilités, et plus généralement de la responsabilité que porte chaque citoyen dans les défis auxquels notre pays est confronté. Je remercie le président du CNFPT d'avoir conclu sur cette notion d'engagement citoyen, parce que aujourd'hui il n'y a plus de grande politique publique. Et vous avez entendu tout à l'heure, si j'ai bien compris, Mohamed Mechmash, le chantre de l'engagement citoyen. Il n'y a plus de grande politique publique possible s'il n'y a pas ce minimum d'écoute des citoyens dans notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que la politique de la ville se développe aujourd'hui avec la création de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires, se concentre aussi dans les maisons du projet pour les futurs quartiers qui feront l'objet de l'ANRU 2, plan de rénovation urbaine. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Cette conviction, qui est la mienne, est d'autant plus forte depuis le 11 janvier dernier. Mesdames et messieurs, chers amis, administrateurs, futurs administrateurs, les Français ont su manifester leur attachement à des valeurs républicaines qui ont été attaquées de manière brutale, de manière médiatique et de manière violente aussi au regard des crimes qui ont été commis au nom d'une religion. En tout cas, en volant les habits d'une religion. Et après le 11 janvier, c'est votre question. Elle est impertinente, justement impertinente. Vous avez vraiment raison de poser cette question parce que derrière cette question se cache une autre question. Qui sommes-nous? En tout cas, quelle est notre place dans la République? Quelle est la place de chacun dans la République et dans un monde mondialisé, en tout cas médiatisé, dans des politiques publiques qui sont mondialisées. Et moi qui arpente la France, ses quartiers, et je vais à la rencontre de la jeunesse, je constate une profonde inquiétude, ou en tout cas une profonde incertitude quant à la réponse à cette question. Et notre nation doute, elle doute. Alors que ses valeurs et ses citoyens sont attaqués physiquement parfois, j'observe la perplexité d'un certain nombre d'entre eux, voire même une forme d'incrédulité. Le 11 janvier a révélé de la confusion chez les Français. D'un côté, une mobilisation inédite, 4 millions, 5 millions, 6 millions de Français qui se retrouvent dans les rues, pas que de Paris, qui embrassent les CRS. À mon époque, à notre époque, ça pouvait être autre chose. Sous les pavés, la plage. En tout cas, j'étais encore un peu jeune à l'époque, mais c'est vrai que c'était un moment d'union nationale extraordinaire. Voilà, des fleurs données aux CRS, des embrassades aux policiers, et à juste titre, au regard voilà, de ce rôle en termes de sûreté qu'assument ces fonctionnaires régaliens de l'État. Donc une mobilisation inédite. Et puis, peut-être dans la foulée, un silence. Un silence assourdissant. Un silence assourdissant de ceux qui ne se sentaient pas concernés par ces manifestations. Il y a ceux qui sont Charlie, et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Non pas parce que, quand je suis arrivé, j'entendais les noms de Koulibaly, Kouachi, etc. Non pas parce qu'ils allaient devenir, ou ils vont devenir potentiellement des djihadistes radicalisés, assoiffés de meurtres, il y en a malheureusement, mais parce que les valeurs de la République ne les touchent plus. Et que ces mots de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, qui sont des mots qui nous parlent, nous les incluent, pour des personnes qui ne sont pas toujours exclues, mais qui sont toujours reclues, eh bien ces personnes recluses, ces mots-là ne veulent pas dire grand-chose. Et l'enjeu, c'est un peu les messages que j'ai ressentis dans vos interventions et dans celles du président du CNFPT. L'enjeu, c'est bien de réconcilier ces deux Frances. Et ces deux Frances autour d'un mot, qui est sûrement peut-être le mot cardinal, le mot d'égalité. Il n'y a pas de liberté sans égalité. Il n'y a pas de fraternité sans égalité. Il n'y a pas de concept sérieux de laïcité sans égalité. Ou en tout cas, que les chances d'accéder à cette égalité soient les mêmes pour tous. Et quand cela n'est pas possible, est-ce que la République est capable d'apporter des solutions extraordinaires pour que ces chances, en termes d'égalité, soient les mêmes pour toutes et pour tous, ce que certains appelleraient la discrimination positive? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé d'affirmer quand j'ai eu ce propos, après avoir rencontré des jeunes de Villepinte, quelques jours après les atrocités du mois de janvier. J'ai été voir des jeunes de Villepinte qui m'ont fait part de leur forme d'incrédulité, encore une fois, vis-à-vis de la République. Et sur le thème, mais voilà, M. Caner, vous le ministre, vous, les hommes publics, les hommes politiques, hommes et femmes naturellement, vous ne respectez pas la deuxième religion de France. Ça a été plus ou moins cela, le leitmotiv de ma rencontre pendant une heure et demie avec ces jeunes, en présence du préfet, en présence de la maire. Voilà, c'est vous ne respectez pas la deuxième religion de France. Bien sûr qu'elle est respectée, mais le sentiment de ces jeunes, c'est qu'ils n'étaient pas respectés en tant que jeunes musulmans. Et cela est un élément voilà, d'interpellation pour les politiques. Et quand j'ai dit après cette rencontre, eh bien, je veux être aussi le ministre de ceux qui ne sont pas Charlie, je pense ne pas m'être trompé. Et je pense que c'est le rôle des politiques, qu'ils soient élus municipaux, départementaux, régionaux, avec l'aide de leurs collaborateurs ici présents, futurs collaborateurs. Je crois que c'est le boulot des élus, je suis encore conseiller départemental, que d'aller au contact de ces jeunes pour qui les valeurs de la République n'ont pas le même sens que ceux que nous pouvons lui donner ici autour de nous. Alors, ah oui, après le 11 janvier, la mobilisation citoyenne populaire doit continuer à se poursuivre. Et peut-être beaucoup de Français se sont donné bonne conscience, mais sans aucune méchanceté, aucune critique de ma part, en allant défiler peut-être pour la première fois de leur vie, le 11 janvier, et puis après. C'est quoi la suite de l'engagement? Eh bien, il ne faut pas que cette capacité d'indignation qui s'est manifestée, cette capacité à se saisir de ce destin collectif national, retombe dès lors que l'émotion s'émousse. Vous me direz, on a cette opportunité, peut-être cette malchance, que l'émotion risque de continuer. On regarde les différents risques d'attentats qui pèsent en permanence sur nous, et on l'a vu récemment. En tout cas, cet engagement dans la durée, je voudrais y inviter nos concitoyens. Et je suis donc ravi d'avoir pu parrainer une promotion dont je comprends qu'elle partage ce souci et qui elle-même, d'une certaine façon, a fait le choix de l'engagement en mettant son énergie et son expertise au service de l'intérêt général. Vous placez, mesdames et messieurs, les élèves administrateurs et administratrices territoriaux et territoriales, en situation de faire, de prendre les choses en main. Vous avez à cœur de participer à l'émergence d'une France plus apaisée, plus fraternelle, plus solidaire. Et je partage avec vous cette ambition qui se situe au confluent de plusieurs de mes attributions ministérielles. En tant que ministre de la Jeunesse et de la Vie associative, je veux encourager cet engagement de tous, notamment celui des jeunes. Non pas qu'ils aient des gages à donner, mais je sais qu'ils en ont envie. Donc je veux faire en sorte que cette envie rencontre des structures, rencontre des projets. Il y a plus de 3 millions de jeunes qui sont engagés dans le mouvement associatif, mais si peu qui sont engagés dans la vie politique. D'ailleurs, pour ça que j'avais commandé un rapport qui a fait quelques bruits il y a une quinzaine de jours à France Stratégie. Le commissaire général Pisani m'a remis ce rapport. Et sur les 25 propositions favorisant l'engagement des jeunes dans la politique, au meilleur sens du terme, il n'y a qu'à bon sens du terme pour moi, eh bien, il y avait cette fameuse proposition qui a un peu défrayé la chronique de la retraite d'office, entre guillemets, quand on a atteint l'âge de 70 ans. Vous n'y êtes pas encore, vous verrez, ça viendra vite. Mais vous, à 70 ans, vous ne serez plus administrateur territorial. La question, c'est est-ce que vous serez élu ? Éventuellement, peut-être. En tout cas, ce rapport mérite, et vraiment, je vous invite à le lire sur le site de France Stratégie, ce rapport est méritant dans le sens où il démontre qu'il y a des pistes pour que les jeunes s'engagent, y compris dans la vie politique, pas automatiquement comme dans un parti politique, mais dans la vie politique, c'est-à-dire dans la gestion de la cité. C'est notamment dans ces missions-là l'objet du service civique. Et j'ai bien entendu le message du président, mon cher François, sur la question du statut du CNFPT par rapport à la formation des services civiques dans les collectivités territoriales. Tu as raison, c'est bien une réflexion au moins réglementaire, sinon législative, qui méritera d'être engagée en l'espèce. C'est donc cela que je suis venu recevoir, le service civique dans les collectivités territoriales, puisque tout à l'heure un rapport va m'être remis, sorte de vademécum du bon élu en charge du service civique, si j'ai bien compris. Eh bien, permettez-moi d'abord des constats. Aujourd'hui, seuls 6% des volontaires de service civique effectuent leur service au sein d'une collectivité territoriale. 6%. Dans les services de l'État et de ses établissements publics, et je pense notamment aux hôpitaux, ce n'est pas tellement mieux, c'est 7%. Et donc, tout le reste est porté par le secteur associatif qui absorbe l'immense majorité des services civiques. Ce n'est pas anormal, diront certains. Je souhaite rééquilibrer cette proportion, notamment avec la montée en puissance du service civique voulu par le président François Hollande. Celui qui vous parle avait eu des financements pour 35 000 services civiques en 2015 dans le cadre de la loi de finances initiale. Et par une sorte de miracle, surtout en cette période de conjoncture budgétaire, eh bien, j'ai obtenu le double de crédit pour passer à 70 000 services civiques. J'en suis très heureux. Mais j'ai une demande très précise, une commande très précise de la part du président de la République qui me dit « Mais est-ce que, monsieur le ministre, vous allez atteindre l'objectif que je vous ai fixé de 70 000 en 2015 et surtout de 150 000 fin 2016, début 2017 ?» Et donc, il nous faudra une mobilisation générale. Et donc, je fais la promotion inlassable du service civique auprès de mes collègues du gouvernement afin qu'ils se saisissent de ce dispositif. Des conventions ont été signées avec Ségolène Royal, avec Fleur Pellerin, dans quelques jours avec Bernard Cazeneuve en tant que ministre de l'Intérieur. Donc des milliers de missions de service civique seront mises en œuvre. Et je tiens à vous le dire ici de manière très forte, je ne braderai pas la qualité du service civique sur l'autel de la quantité. Et il est clair que nous devons multiplier les services civiques à partir de la mission initiale, c'est-à-dire une moyenne d'environ 8 mois, des missions identifiées, des missions qualifiées, un véritable parrainage au sein des collectivités d'État ou territorial en l'occurrence. Et donc, nous avons besoin de la mobilisation de toutes et de tous en la matière, y compris des grandes associations d'élus, ici signalées, l'ARF, la DCF, la MRF, l'AMF naturellement, l'ADF. Bon, parfois certaines d'entre elles sont un peu chafouin dans cette période. Voilà, il suffit de lire les déclarations. C'est vrai que les dotations budgétaires de l'État, qui sont en baisse, personne ne peut le nier, et moi à part, en l'occurrence, c'est vrai que nous demandons beaucoup d'efforts aujourd'hui aux collectivités territoriales, mais parce que l'État s'impose lui-même ses efforts, et l'actualité récente internationale nous montre que nous ne pouvons pas laisser filer les comptes publics de ce pays, en tout cas, quand on voit l'État dans lequel ils nous ont été donnés il y a 3 ans maintenant, il y a un devoir de responsabilité aujourd'hui de la part des pouvoirs publics, qu'ils soient à l'exécutif gouvernemental ou qu'ils soient dans les exécutifs locaux. Je sais pouvoir donc compter sur vous. Et le kit d'accueil du volontaire en service civique au sein d'une collectivité que vous avez produit, qui va m'être remis dans quelques instants, sera un outil très utile pour faciliter les démarches des communes, des intercos, des départements et des régions. Et d'ailleurs, quand dans quelques mois vous serez embauché dans ces communes, interco, départements, régions, n'oubliez pas votre kit. Voilà, c'est bien de faire des kits, c'est encore mieux de les mettre en œuvre quand on est en responsabilité. Donc je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé à construire ce nouvel outil. Je sais que vous souhaitez vous mobiliser encore davantage, participer à cette dynamique collective, et votre engagement constitue réellement une réponse, en tout cas une partie de la réponse aux événements du début du mois de janvier. Soyez-en chaleureusement remerciés. En tant que ministre aussi en charge de la ville, j'ai conscience que l'après 11 janvier exige aussi de développer une action volontariste dans les quartiers prioritaires. N'oublions jamais qu'il y a là 5,5 millions de nos concitoyens, parmi les plus pauvres de nos concitoyens, qui vivent dans ces 1500 quartiers prioritaires, 1300 métropoles, 200 en Outre-mer. Et quand je vais à La Réunion accompagner le Premier ministre il y a une quinzaine de jours maintenant, pour constater qu'il y a un taux de chômage chez les jeunes de 58%. Chez les jeunes de moins de 25 ans. Permettez-moi de penser que sans action publique, eh bien, ce n'est pas la loi de l'offre et la demande qui réglera ces questions, c'est bien l'interventionnisme public. Je suis philosophiquement keynésien dans tous les domaines et je crois à l'action publique pour modifier le cours des choses. Et donc, ces politiques publiques ont besoin d'être portées par des élus d'expérience, engagés, motivés, et aussi, bien sûr, par des hauts fonctionnaires, ceux que vous serez demain. Et vous avez eu raison d'interroger le bien fondé de la politique de la ville. Il est important de pouvoir se livrer à ce devoir d'inventaire. Moi, je n'ai pas peur de ce devoir d'inventaire. Et ma réponse est sans détour. La politique de la ville, qui a connu de nombreux ministres, a transformé le visage de centaines, de milliers de nos quartiers. Qu'il reste du travail, c'est certain. Mais sans cette action déterminée de l'État et des collectivités locales, les choses seraient bien pires. J'ai vu partout en France des quartiers rénovés, réhabilités, transfigurés. À chaque fois, ce sont des milliers de personnes dont la vie a changé et dont on a changé la vie. De la même manière, je comprends les interrogations quant à l'objectif moult fois répété de la mixité sociale. C'est vrai que nous avons souvent modifié l'architecture des quartiers, l'environnement de ces quartiers, la qualité de vie urbaine de ces quartiers. Mais a-t-on modifié réellement la population de ces quartiers? On dit souvent que faire venir des pauvres dans les quartiers de riches, c'est facile. Faire venir des riches dans les quartiers de pauvres, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, il faut pourtant se fixer cet objectif. Avec toute une série de mesures que je pourrais vous évoquer, je pense en particulier à l'accession sociale à la propriété à un taux de 5,5, ce serait trop long devant vous aujourd'hui. Mais il faut une détermination. Chaque pas, chaque pierre mise en place, c'est un pas, une pierre qui sert à l'intérêt collectif. Et cette mixité qui ne s'improvise pas, qui ne se décrète pas, elle passe par la mobilisation d'outils publics. Et vous le verrez prochainement, une circulaire est à la signature pour la mise en œuvre de la loi SRU. Ces fameux objectifs aujourd'hui dans les villes de plus de 3500 habitants. Et je vous le dis avec fermeté, les villes, les 218 villes qui aujourd'hui, parfois avec cynisme, refusent d'appliquer la loi, eh bien, se verront appliquer la loi de la République avec sa force, avec sa justice, avec sa justesse, parce que la République ne peut pas laisser des zones de non-droit, y compris quand on parle, et surtout quand on parle de mixité sociale. Le mois de janvier 2015 aura donc été un révélateur de fractures profondes dans notre société. Mesdames et messieurs, chers amis, nous ne serons pas trop nombreux, élus, fonctionnaires, citoyens, pour tenter de réparer ces fractures. Et voir votre génération s'y engager pleinement est un grand motif d'espoir pour moi, mais aussi pour l'ensemble des autorités encore ici présentes. Tout à l'heure, François Deluga a évoqué la mémoire et les propos de François Mitterrand. J'évoquerai celle d'un autre François qui est encore vivant, François Hollande, qui, lors de la panthéonisation des quatre résistants, Brossolette, Jean Zé, Germaine Tillon ou Geneviève de Gaulle-Antonioz, avait dans son discours eu cette phrase extrêmement pertinente. Il a dit, mais à quelques mots près, il a dit « Les discriminations, les injustices progressent dans notre pays. Mais ce n'est pas la faute de la République. C'est faute de République qu'elle progresse. » Et donc, ayez peut-être ce message en tête, parce que vous êtes bientôt partie prenante de cette République solidaire, de cette République juste, de cette République qui fait une place à chacun de ses membres en leur permettant simplement de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'autonomiser. Merci d'y avoir largement contribué par le rapport que je recevrai dans quelques instants. Merci à toutes et à tous et vive la promotion vers Cabavelle.